Ça passe et ça casse.
Une revue de presse des informations militantes.
Par Geronimo Guzman. On en a parlé la semaine dernière, on en reparle cette semaine. La mobilisation contre la loi El Khomri s'intensifie et se précise. Elle a été lancée par des anonymes sur Facebook, mais tellement suivie que les centrales syndicales ont bien été obligées de la reprendre. Et donc le 9 mars, c'est mercredi, on descend dans la rue et on bloque tout. Les sites militants sont pleins d'appels à la grève et à la manifestation pour mercredi. Alors quelques exemples piochés un peu au hasard. Le site Lutte en Or, c'est un blog WordPress, qui sous le titre « Le 9 mars, tous dans la rue contre la loi El Khomri », nous dit par exemple que la politique menée par le gouvernement Valls tend à concrétiser l'ordre nouveau tant espéré par les néolibéraux, la loi Macron, l'abandon du droit de vote des étrangers, la déchéance de nationalité ou encore la prison pour les ouvriers de Goodyear sont autant de coups assénés à la gauche. Avec son triptyque sécuritaire, raciste et libéral, le PS s'inscrit désormais dans les pas de son alter ego, l'UMP. Sur yahata.info, qui est un site toulousain. Contre la loi travail, pour passer à l'offensive, bloquons tout. Un petit extrait, c'est qu'il faut bien maintenir le taux de profit dans un contexte de crise qui s'éternise et de recrise qui se précise. Partout en Europe et dans le monde, ça doit saigner. Il en faut de la sueur et des larmes pour la bonne marche de l'accumulation capitaliste. La Méditerranée est transformée en une mer de sang pour terroriser les populations exilées, forcer les exploités qui viennent en Europe à accepter les pires conditions de travail, les pires salaires, dans une précarité permanente. Et des partis comme le Front National sont en embuscade pour nous expliquer que si nos conditions de travail se dégradent, c'est à cause des nouveaux prolétaires qui arrivent. À nous de leur renvoyer à la gueule que les attaques dont font l'objet les migrants sont des attaques contre nous tous. Si nos conditions de travail se dégradent, c'est plutôt que nous sommes sous les coups de boutoir de réformes toujours plus dures, d'une exploitation toujours plus intense. Et cela fait des dizaines d'années que durent ces attaques, bien qu'elles se soient intensifiées depuis la crise. Pour parislutte.info maintenant. Les appels à la grève se multiplient, les syndicats appellent massivement, mais quand bien même vous n'êtes pas syndiqué, vous pouvez faire grève. Ça bouge aussi dans les facs, dans les lycées. La nouvelle loi saccage encore un peu plus le code du travail et elle ne passera pas. Sur rebellion.info, loi El Khomri, notre droit du travail vaut bien une grève générale. Cet article nous dit que cette loi, c'est oublier que depuis 30 ans, aucune des réformes qui cassent le code du travail n'a créé de l'embauche. Au contraire, historiquement, chaque loi qui a amélioré les conditions de travail et la protection des travailleurs-travailleuses a permis une baisse massive du chômage. C'est oublier que ce qui alourdit le code du travail, ce n'est pas les lois, mais les dérogations qui sont exigées par les patrons. C'est oublier que si les riches n'investissent pas, ce n'est pas par manque d'attractivité, mais parce qu'ils préfèrent spéculer, c'est beaucoup moins fatigant et plus rapidement rentable pour eux. C'est oublier que la compétitivité n'est pas une fatalité, mais c'est bien un choix délibéré de nos dirigeants économiques et politiques, tout comme le mondialisme. C'est oublier que la course à la compétitivité est un puits sans fond. Et quel intérêt pour nous si ça doit détruire à ce point nos conditions de vie? Quel intérêt qu'un pays soit riche si cela ne concerne qu'une minorité, et si la majorité s'enfonce de plus en plus dans la précarité et la surexploitation? La peur du chômage ne doit pas nous faire accepter leur chantage. Voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, on se met en grève mercredi, salariés, étudiants, lycéens. Si vous bossez et que vous n'avez pas trop l'habitude de faire grève, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à l'article sur le site larotative.info. Larotative.info, l'article qui s'appelle « Le droit de grève, comment ça marche ?». C'est un article qui explique comment et pourquoi vous êtes couvert par un préavis, que ce préavis a été déposé directement dans votre entreprise ou simplement pour votre branche. Votre patron ne peut pas du tout vous menacer d'une sanction. Si jamais il le fait, c'est lui qui a hors la loi et c'est assez rapidement cassé, sa sanction. Le seul truc, c'est si jamais vous êtes en CDD, là, le patron peut ne pas renouveler votre contrat. Ça, il n'a aucune obligation de le renouveler. Et du coup, ça peut être une raison éventuellement. Dans ce cas, c'est à vous d'évaluer la gravité de cette menace. Enfin, pour les préavis qui sont déposés le 9 mars, pour savoir plus précisément, vous pouvez aller voir sur le site rebellion.info qui donne un catalogue pas du tout exhaustif dans son article qui s'appelle « Dans la rue, le 9 mars, contre la loi travail, on s'organise, les rendez-vous des prochains jours ». Et donc ces préavis, je vais en lire quelques-uns quand même pour comme ça peut-être vous allez voir que vous êtes concernés. Déjà pour toute la fonction publique, tous les travailleurs, toutes les travailleuses sont couverts par le préavis de la CGT et un autre préavis de Solidaire. Dans la santé, le social, l'accueil, l'animation et pour toutes les personnes qui travaillent en lien avec ces structures, un préavis de Sud Santé Sociale et un autre de la CGT couvrent la journée du 9 mars. Dans l'éducation, le préavis généraliste de Sud-Éducation couvre tous les personnels, enseignants ou non enseignants, de droit privé ou de droit public, et les couvre pour la durée du 8 mars au 2 mai. La CGT FERC, qui est la CGT Enseignement Supérieur et de Recherche, a déposé un préavis du 9 mars au 15 avril. Dans le spectacle, et du coup ça couvre aussi les techniciens et les intermittents, il y a un préavis qui a été déposé par la CGT. Au niveau national, si vous êtes à la SNCF, à Air France, à PSA, à l'inspection du travail, à France Télévisions, à la Sécurité Sociale, à la Poste ou dans la recherche scientifique, hop, tout ça, il y a des préavis, CNT, CGT et Sud-PTT. Voilà, et ben concrètement, qu'est-ce qu'on fait le 9 mars quand on se lève? Alors ça dépend où on habite exactement dans le Pila et où on a envie d'aller. Mais en tout cas, on peut aller du côté d'Annonay, à 14h à la gare routière devant le Super U, départ de la manif. Si on est plus orienté Saint-Étienne, le rendez-vous c'est à midi devant la préfecture. Et si on a envie de quelque chose d'un peu plus gros, on peut aller jusqu'à Lyon. À Lyon, à midi, pique-nique sur la place Bellecour et à 13h, départ en manif. Et ben voilà, et ben à mercredi.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs!
Vous allez entendre la rubrique « Ça casse et ça passe », la revue de presse des sites d'information militants sur Radio d'ici. Pour cela, il ne vous sera demandé aucune contribution financière. Tout juste l'effort de tourner le bouton de votre radio et de régler la fréquence sur 105.7, 106.6 ou 97 MHz. Par ce simple moyen, et sans qu'il vous en coûte un centime, vous aurez des révélations incroyables, des scandales croustillants, des mots d'ordre de révolte, un aperçu de dessous des cartes peu ragoûtantes de la politique, de l'exploitation capitaliste et de la répression étatique. La direction, ne reculant devant aucun sacrifice, y ajoutera une bonne couche d'antiracisme, de féminisme, de solidarité et bien d'autres choses encore. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, et si le spectacle des réalités les plus odieuses ne vous effraie pas, tendez l'oreille et faites-en votre profit. Et maintenant, si vous le voulez bien, la suite.
Allez, maintenant on va à Calais. Petit résumé pour celles et ceux qui n'ont écouté aucune info la semaine dernière. Remontons à il y a un an. À Calais, la police à ce moment-là avait rassemblé de force tous les migrants, tous ceux qui sont là-bas parce qu'ils veulent passer en Angleterre, sur un terrain unique, un terrain qui a été surnommé le bidonville d'État ou la jungle. À l'époque, on leur avait promis qu'ils n'en seraient pas délogés. Là, depuis septembre, la préfète du Pas-de-Calais a décidé de réduire puis de supprimer cette jungle. Pour faire ça, avec la complicité du ministre de l'Intérieur, elle a d'abord créé des centres pour y envoyer les migrants qu'elle s'apprêtait à virer. Alors quelques centres, un petit millier de places en tout et pour tout, pour loger peut-être 4000 à 6000 personnes, selon les estimations, et tout ça dans des conditions complètement invivables. La meilleure idée, la meilleure forme de ces centres, c'est le CAT, donc CAT pour centre d'accueil temporaire, ou encore camp de containers. C'est des containers qui sont entassés. Chaque container peut accueillir 12 personnes sans aucune possibilité de se faire à manger, de s'aménager un coin un peu personnel. Par exemple, il y a un Égyptien qui avait construit une petite boîte pour ranger ses chaussures. On lui a fait dégager la boîte. Le tout entouré de barbelés et où on est enregistré grâce à l'empreinte de sa main dans le scanner. Empreinte qu'on doit redonner à chaque fois qu'on rentre dans le centre. Bref, les cabanes dans la boue semblent soudain bien douces à la plupart des migrants. Les associations qui travaillent avec les migrants ont protesté contre la destruction programmée du camp. Elles ont même tenté une action en justice pour faire annuler cette destruction, mais ça a servi à rien. Tout ce qu'elles ont obtenu, c'est la promesse du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que les choses se passeraient, ouvrez les guillemets, de manière progressive, par la persuasion et dans le respect de la dignité des personnes. Eh ben, une promesse de socialiste, comme on dit. Dès le lundi 29 février, c'est-à-dire quelque chose comme deux jours après qu'il ait prononcé cette phrase, les flics ont progressivement persuadé les migrants de quitter leur cabane à coups de matraque, avec deux minutes pour rassembler leurs affaires dans la dignité. La destruction dure depuis, elle se fait pas en un jour. Le site Passeurs d'Hospitalité relaye depuis 2 ans l'actualité des migrants de Calais. Il a suivi cette expulsion. Voilà un extrait d'un article daté de jeudi dernier. L'article s'appelle « Destruction du bidonville, des exilés se cousent les lèvres pour protester contre la violence ». La destruction du bidonville va durer un certain temps, jour après jour. La violence la plus visible, comme lundi ou mardi matin, semble s'estomper, même si la situation reste extrêmement tendue. Reste la violence la plus profonde, ces personnes dont on détruit les seules habitations qu'elles ont, avec souvent leur seul bien à l'intérieur. La répétition de ce qui se passe à Calais depuis la fermeture du centre de Sangatte en 2002, mais à une toute autre échelle. C'est une petite ville de 6000 à 8000 habitants qui va être rayée de la carte. C'est hors de tout contexte de guerre, ou alors est-ce qu'on est en guerre contre les exilés ? Toute une population civile dont les autorités rasent les habitations. C'est pour protester contre cette violence que 8 exilés iraniens se sont cousus la bouche, oui, vous avez bien entendu, se sont cousus la bouche et entament une grève de la faim. Leurs pancartes disent « J'ai quitté mon pays et je suis venu ici pour trouver mes droits humains, mais malheureusement, je n'en ai trouvé aucun. » Ou bien « Où est votre démocratie ? Où est votre liberté ?» Voilà, la réponse du ministre du ministère de l'Intérieur, comme souvent quand il s'agit de gérer des gens dont le gouvernement préférait que ces gens n'existent tout simplement pas, c'est de leur rendre la vie invivable, en espérant sans doute que, raisonnablement, ces gens décident de se désintégrer. Mais si on veut prendre un peu le temps pour avoir une idée un peu plus complète de ce qui se passe là-bas, une réflexion sur la manière dont l'État, les flics, la mairie de Calais, la préfecture aussi, ont tout fait pour empirer la situation, et aussi des pistes de ce qui pourrait être des solutions peut-être un peu malignes, et en tout cas bien plus réalistes que de pousser les migrants à l'auto-désintégration, on peut lire sur le même site Passeurs d'Hospitalité l'excellent article qui s'appelle « La jungle et la ville ». Allez, juste une petite phrase de cet article, une petite phrase qui introduit une longue histoire, description, analyse, liste de propositions, et qui dit « En détruisant tout ce qui rend la vie humaine, on la rend inhumaine et donc détestable. En rendant la vie détestable dans le camp, on la rend détestable dans la ville. C'est à quoi s'emploient uniquement les pouvoirs publics depuis des années. »
C'est curieux comme parfois on aimerait que la terre s'ouvre sous vos pieds et vous avale tout entier.
Notre ministre de l'énergie, l'incroyable Ségolène Royal, a indiqué dimanche 28 février, c'était sur France 3, être prête à donner le feu vert à la prolongation de 10 ans de la durée de vie des centrales nucléaires, qui passerait ainsi de 40 à 50 ans. Super idée ! Ces centrales avaient été construites pour une durée de 30 ans normalement. C'est tellement une super idée de les prolonger que l'Allemagne et le Luxembourg ont commencé à protester assez fort contre le risque que ces vieilles centrales, toutes déglinguées, font courir à tout le monde, puisque, contrairement à ce que racontaient les experts français à l'époque de Tchernobyl, les nuages radioactifs ne s'arrêtent pas aux frontières. Le canton de Genève, lui, a carrément porté plainte, c'était mercredi dernier, contre la France pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux. Cette plainte visait en particulier la centrale du Bugey, qui est donc un peu près de Genève, au goût des Genevois. Alors moi, je suis allé voir sur le site de Sortir du nucléaire et j'ai choisi un des communiqués de presse pour vous le raconter. Celui qui s'appelle « Prolonger les centrales jusqu'à 50 ans de fonctionnement, le projet illusoire et irresponsable de Ségolène Royal ». Bon, déjà l'article nous explique que c'est pas à Ségolène Royal de décider si on va prolonger les centrales, mais c'est à l'autorité de sûreté nucléaire. Or, l'ASN, qui a l'air un petit peu plus réaliste que notre ministre de l'Environnement, parle d'un contexte en matière de sûreté nucléaire particulièrement préoccupant et rappelle que EDF est déjà débordé par les simples travaux de maintenance des centrales qui existent. Bref, pas sûr que l'ASN autorise cette prolongation. Alors, l'article se demande, Ségolène Royal ignore-t-elle ces éléments, pourtant connus depuis des années, ou tente-t-elle délibérément de passer outre ? Et puis ça continue en expliquant que le ministre de l'Environnement trouve que les centrales sont déjà amorties, puisqu'elles sont vieilles, et donc que toute l'électricité qu'elles vont produire à partir de maintenant est pratiquement gratos. En fait, ça marche pas. Les centrales tombent en ruine, et les travaux nécessaires vont coûter un bras. À qui, je vous le demande ? Est-ce que vous croyez que c'est dans la poche de Royal ou de Anne Lauvergeon qu'on va aller chercher les sous ? Eh ben, si vous croyez ça, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, puisque c'est quand même plutôt dans votre poche et dans la mienne. Royal parle de prolonger les centrales, ouvrez les guillemets, dans le respect de la loi de transition. C'est encore un beau foutage de gueule. Cette loi dit que la part du nucléaire dans la production totale d'électricité doit être réduite. Alors, EDF et Ségolène Royal font la démonstration suivante. Ils partent du principe qu'on va consommer de toute façon de plus en plus d'électricité, puisque en gros c'est ça la croissance. Donc si on consomme plus d'électricité mais qu'on produit toujours autant d'électricité nucléaire, on diminue la part du nucléaire dans la totalité de l'électricité produite en France. Ça a l'air malin d'un côté. Mais en fait, c'est quand même pas si malin que ça. Déjà parce que la France, comme tous les autres pays du monde, à la COP21, s'est plutôt engagée à faire des économies d'énergie et donc plutôt à ne pas consommer plus d'électricité, mais peut-être même plutôt moins. Ce qui veut dire que la part du nucléaire, si on en produit toujours autant, risquerait plutôt de grossir dans la totalité. La conclusion de l'article, allez, je vous la lis. Ignorance des dossiers ou malhonnêteté ? Dans tous les cas, le projet partagé par EDF et Ségolène Royal n'est ni viable sur le plan de la sûreté, ni sur le plan économique. Sans compter que faire fonctionner plus longtemps les centrales nucléaires revient aussi à augmenter la production de déchets qui sont ingérables, alors que les capacités de stockage à La Hague comme ailleurs atteignent leurs limites. Plutôt que de perdurer dans ce déni qui prépare une catastrophe industrielle, Ségolène Royal devrait se soucier d'impulser une transition énergétique digne de ce nom et une reconversion massive de l'électricité nucléaire vers les énergies renouvelables. Eh bien, cette chronique touche à sa fin. C'était Jeronimo Guzman pour Ça casse et ça passe. Et on se retrouve lundi prochain.